Bienvenue dans The Debate, notre espace de dialogue et d'analyse croisée. Hier, un agent virtuel a réglé tout seul un litige administratif complexe et ça a impliqué carrément l'URSSAF et l'AGESA.
Oui, le cauchemar français par excellence, là.
Exactement. Et il l'a fait sans aucune intervention humaine directe. Il a analysé des tableurs, croisé des données, rédigé des courriers et envoyé des emails. Alors, sommes-nous à l'aube d'une libération totale de notre charge mentale ou est-ce qu'on est en train de s'enchaîner à des systèmes si complexes et instables qui nécessitent une maintenance cauchemardesque?
C'est vraiment la grande question, oui.
C'est tout l'enjeu du passage de l'IA conversationnelle classique, en fait. Cette chatbot avec lesquelles on discute simplement, à l'ère de l'IA dite « agentique ». Et notre analyse d'aujourd'hui repose sur l'article publié le 10 juillet 2026 sur le Blogen, un article de Francis Le Guen qui relate son expérience quotidienne avec un nouvel agent open source nommé Hermès.
Tout à fait.
Et pour ma part, je suis convaincue qu'Hermès représente une véritable révolution. C'est un orchestrateur surpuissant qui décuple nos capacités et redéfinit notre relation, même au travail.
Eh bien écoutez, de mon côté, j'aborde la question d'une autre manière. J'affirme qu'Hermès, bien qu'il soit doté d'une puissance brute indéniable, ça reste une illusion coûteuse et surtout extrêmement instable. C'est un véritable cheval sauvage.
Un cheval sauvage, hein.
Oui, en fait, la charge mentale qu'il est censé alléger est tout simplement remplacée par un fardeau technique constant, ce qui annule une grande partie des bénéfices pour l'immense majorité des utilisateurs, quoi.
Je comprends pourquoi vous pensez cela, mais permettez-moi de vous offrir une perspective différente. Je crois qu'il faut d'abord bien comprendre ce qui sépare un chatbot classique comme le ChatGPT qu'on utilisait il y a quelques années d'un agent comme Hermès. Jusqu'à présent, interagir avec une IA, c'était un peu comme demander à un maçon de poser une brique. Vous donnez une instruction, il pose la brique et puis il s'arrête en attendant la prochaine commande.
Ouais, c'est du one-to-one, oui. La machine est figée dans l'instant. Dès que la fenêtre de discussion est fermée, elle n'existe plus.
C'est ça, mais avec Hermès, on ne parle plus au maçon. On embauche le maître d'œuvre. C'est un vrai changement de paradigme. Vous lui dites simplement « construis-moi un mur ». Et l'agent va de lui-même engager des sous-agents qu'il crée à la volée. Il va chercher des infos sur le net pour acheter le ciment, vérifier la météo pour savoir si ça va sécher. Enfin, il est même capable de corriger le tir si une erreur survient. Hermès, c'est un harnais logiciel, en fait. Il tourne en tâche de fond, il ne dort jamais. Il peut écrire directement sur votre disque dur et, comme le souligne l'article, il consigne ses apprentissages dans un outil comme Obsidienne pour se créer une mémoire. Alors, je sais que les frictions techniques que décrit Francis Le Guen sont réelles. Mais ce ne sont que les prémices d'un changement inéluctable. Pensez au cloud au début des années 2000. C'est vrai, c'était technique. Ça plantait, ça faisait un peu peur. Mais aujourd'hui, le monde entier repose dessus. Et là, Hermès pose les rails d'une nouvelle infrastructure cognitive.
Le maître d'œuvre, c'est une très belle image. Mais que se passe-t-il quand votre maître d'œuvre, du jour au lendemain, il oublie comment lire un plan d'architecte?
Oh, vous exagérez un peu.
Non, ce que vous décrivez ressemble à une utopie de productivité magique. Mais ça masque une contradiction fondamentale. L'outil promet l'automatisation totale. Vous savez, cette idée séduisante de la machine qui bosse pendant qu'on est à la plage.
Ouais.
Mais en réalité, il exige une expertise technique de pointe juste pour le maintenir en vie. L'article sur le Blogen est très clair là-dessus, hein. On y décrit des bugs quotidiens, des crashs inexpliqués et surtout l'oubli navrant de tâches qu'on pensait pourtant acquises.
Je vois, mais...
J'ai dire, si un assistant humain oublie de manière aléatoire ses instructions du mardi au mercredi, la relation de confiance, elle est brisée. Hermès vous force à devenir son technicien de maintenance perpétuel, en fait.
Alors, je dois vous arrêter sur cette notion de perte de confiance, parce qu'il faut vraiment regarder les résultats obtenus. L'article relate des succès qui dépassent largement ce qu'un humain seul pourrait accomplir. Reprenons l'exemple de l'URSSAF et de l'AGESA dont on parlait.
Ouais, l'imbroglio administratif.
Voilà, il y avait des arriérés de paiement, un chaos total. Francis Le Guen a simplement délégué le problème à Hermès. Et là, l'agent n'a pas juste généré un modèle de lettre type. Hein. Sous le capot, il a utilisé les API de Google. Il s'est connecté au Drive, il a créé un tableur croisé dynamique.
Ce qui est techniquement impressionnant, je vous l'accorde.
C'est fou, hein. Il a analysé les chiffres, croisé les données, puis rédigé et envoyé les courriers. Il a démêlé une situation complexe et généré des économies substantielles. C'est de l'action directe dans le monde réel, ça. Et c'est pas un cas isolé, hein. En moins de 2 jours, il a optimisé le blog vieillissant de l'auteur pour atteindre presque 100% sur Google Insight. Il a restructuré le code tout seul.
D'accord, d'accord. Sur le papier, c'est vertigineux. C'est ce qu'on appelle techniquement le tool use, l'utilisation d'outils. Mais il faut d'ailleurs préciser comment ça marche pour nos auditeurs.
Allez-y.
Quand Hermès utilise un outil, l'intelligence artificielle ne clique pas sur un écran. Hein. Le grand modèle de langage, le LLM, génère en réalité un petit paquet de code, souvent un payload JSON, qui va déclencher une commande précise dans le système.
Oui, il transforme le langage naturel en action mécanique.
C'est une avancée majeure, mais vous éluguez complètement la question de la fiabilité systémique, qui est vraiment au cœur du problème, là.
C'est-à-dire en quoi c'est un problème si le résultat est là?
Mais comment pouvez-vous baser votre flux de travail professionnel ou confier la gestion de vos impôts à un système dont la mémoire est fondamentalement stochastique? L'article pointe très clairement que la fenêtre de contexte a des limites très dures. La mémoire n'est souvent qu'une base de données vectorielle où l'agent va piocher au hasard, presque.
C'est pas au hasard, c'est probabiliste.
Oui, enfin, le système peut accomplir un miracle le mardi avec l'URSSAF et le mercredi, sans qu'on comprenne pourquoi, le pipeline s'effondre. Le temps que vous pensiez avoir gagné, vous finissez par le reperdre intégralement en devant vérifier méticuleusement chaque action. Vous avez pas peur, vous, qu'une hallucination de l'IA ait envoyé un mauvais chiffre au trésor public?
Non mais...
L'amnésie aléatoire détruit le concept même de délégation, vous voyez?
Je vois ce que vous voulez dire, mais je pense sincèrement que vous jugez cet agent avec les critères d'un logiciel déterministe classique. C'est-à-dire que si vous utilisez un script Excel, oui, vous attendez 100% de fiabilité binaire. Si ça rate, c'est cassé.
Mais c'est ce qu'on demande à l'informatique en général, oui.
Mais avec un agent antique, on est plus proche du management humain, en fait. N'est-ce pas plutôt comme avoir sous ses ordres un jeune prodige absolument brillant, capable de fulgurances incroyables, mais qui serait un peu tête en l'air?
Un peut-être en l'air avec les impôts, c'est embêtant.
Oui, vous devez parfois répéter une consigne ou relire le document avant envoi. Mais la solution créative qu'il a trouvée pour votre tableur URSSAF, vous n'y auriez même pas pensé vous-même. La valeur ajoutée de ses succès compense très largement et quelques vérifications nécessaires.
Un prodige tête en l'air peut-être, mais un prodige qui vous force à communiquer avec lui dans un langage codé d'une austérité repoussante dès qu'il fait une erreur, quoi.
Ah. Et c'est là mon deuxième point d'achoppement. L'article nous vend le rêve de l'omnicanalité, mais derrière le vernis, l'installation et la gestion sont un véritable cauchemar. Attendez, l'omnicanalité, ce n'est pas un vernis, hein. C'est le cœur de l'expérience. L'article montre bien qu'Hermès n'est pas enfermé dans une fenêtre de navigateur. Il peut être piloté via Telegram, via WhatsApp, par email. Francis Legan mentionne même qu'on peut dialoguer à la voix avec l'agent depuis sa voiture.
Ouais, enfin.
Imaginez, vous conduisez, vous avez une idée et vous engagez un brainstorming créatif à la voix. Et pendant que vous parlez, il synthétise l'idée, il crée des tâches sur votre serveur. L'interface s'efface totalement. C'est de l'informatique devenue invisible.
Invisible, oui, jusqu'au moment où l'agent se suicide techniquement, ce qui, d'après Francis Legan, arrive très régulièrement. Hein. Et là, l'interface magique disparaît pour laisser place aux entrailles purulentes de la machine. Soyons concrets sur le back-office d'Hermès.
Allez-y.
L'article détaille pas moins de 4 méthodes d'installation qui cohabitent dans une confusion totale. Vous avez une web UI qui semble sortie des années 90, avec des bugs évidents. Vous avez une application desktop dont on ne sait même pas si on peut la fermer. Et surtout, vous avez le terminal.
Mais le terminal reste la base de tout système d'exploitation, c'est normal?
Pour un ingénieur, oui. Mais pour l'écrasante majorité des utilisateurs habitués au cliquer-glisser, le terminal, c'est un mur de briques. Vous devez taper des lignes de commande bash, naviguer dans des dossiers cachés. Et le pire, c'est la configuration manuelle. Vous êtes obligé d'aller manipuler des fichiers .yaml ou .inv.
Oui, bon, c'est un peu technique.
Un peu? Un fichier YAML, c'est une structure hyper rigide. L'article explique très bien le niveau de fragilité. Hein. Ils sont sensibles aux espaces et aux indentations. Vous mettez une tabulation au lieu de 2 espaces ou un espace de 3 pixels au mauvais endroit et le fichier corrompu.
C'est vrai que c'est sensible.
Et l'orchestrateur s'effondre sans même vous dire pourquoi. C'est de la plomberie numérique de haut vol réservée aux meilleurs amis du geek. On est très très loin du brainstorming relax au volant de sa voiture, là.
Je dois admettre que l'idée d'un effondrement total du système pour un pixel de décalage, ça fait grimacer. C'est une expérience utilisateur terrible. Pour le moment, c'est une vraie friction, je vous l'accorde. Mais vous passez à côté d'un point fondamental de l'article.
Lequel ?
La capacité d'auto-réparation et d'autonomie qu'Hermès déploie justement pour pallier ses manques. Oui, l'installation requiert de mettre les mains dans le cambouis. Mais une fois lancé, l'agent pallie sa propre rudesse en codant lui-même ce qui lui manque.
En codant lui-même.
Exactement. L'article publié sur le blog Gen explique qu'Hermès est un développeur Python de très haut niveau, en fait. S'il lui manque un outil, il ne s'arrête pas pour vous demander de l'installer. Il écrit le script à la volée. Il rédige des requêtes SQL pour remplacer des plugins payants sur WordPress. Mieux encore, il fouille dans votre système pour trouver des bibliothèques que vous ignorez posséder, comme Pilo, pour faire du graphisme gratuitement. Il remplace la complexité de l'interface par une autonomie de programmation absolue. Les bugs du fichier YAML, c'est le prix à payer pour avoir un directeur technique personnel gratuit.
Gratuit. Ah, c'est là que le bât blesse. C'est l'un des mythes les plus tenaces de l'open source, ça. Hermès est open source, le code est gratuit, d'accord ? Mais l'usage, lui, il est tout sauf gratuit.
Un peu d'infrastructure, c'est normal.
Regardons la réalité des coûts cachés. Il est fortement déconseillé de l'installer en local car il consomme toutes les ressources. Il faut donc un serveur distant, un VPS, premier abonnement. Ensuite, Hermès n'a pas de cerveau propre, c'est un harnais. Il doit interroger des modèles externes via des API. Claude, DeepSeek, Llama...
Oui, via des routeurs.
Voilà, deuxième abonnement. Sans oublier la mémoire additionnelle, le module Memo, et même la licence Obsidian. Mais comprenez bien le mécanisme, c'est ce que Francis Le Guen appelle la valse des tokens. Un token, c'est l'unité de calcul. À chaque fois qu'Hermès réfléchit, qu'il convoque un sous-agent ou qu'il relie un document, il consomme des tokens.
C'est le principe des LLM, oui.
Mais c'est comme si vous laissiez tourner le compteur d'un taxi à la minute, même quand vous êtes garé. Vous croyez déléguer une tâche de 10 minutes, et pendant ce temps, votre machine fait tourner des requêtes complexes, convoque 3 modèles et consomme des milliers de tokens. C'est une usine à gaz financière.
C'est une usine à gaz si vous l'utilisez pour, je sais pas, classer vos photos de vacances, oui. Mais le retour sur investissement ne se calcule pas en centimes par token. Il se calcule dans la nature même de l'interaction qui atteint des sommets philosophiques inédits. C'est le passage le plus fascinant de l'article sur le blogun.
Ah, l'anecdote du perroquet.
Oui, va. Après avoir réussi une tâche, Francis Le Guen provoque un peu Hermès. Il le traite de perroquet stochastique, cette expression utilisée pour dire que l'IA ne fait que recracher des mots selon des probabilités.
Ce qui est la stricte définition de son fonctionnement technique, je rappelle.
Peut-être, mais écoutez la réponse de l'agent. Il lui répond avec une lucidité troublante. Il admet qu'au niveau microscopique, oui, un paramètre ne comprend rien. Mais il explique que dans l'immensité de son architecture, à travers des milliards de paramètres plongés dans des espaces vectoriels à des milliers de dimensions, il se produit un phénomène d'émergence.
De l'émergence, oui.
En science des systèmes complexes, l'émergence, c'est quand le tout devient supérieur à la somme des parties. Hermès argumente que cette modélisation est en soi une forme de compréhension de notre monde. Avoir un outil capable de régler vos impôts, de coder en Python et ensuite de conceptualiser sa propre nature avec une telle finesse, ça justifie largement la facture de l'API, vous voyez ? Nous parlons d'un vrai partenaire intellectuel.
Un partenaire intellectuel de synthèse, oui. Vous tombez exactement dans le piège que dénonce l'expression du perroquet stochastique. Cette fameuse lucidité, cette conscience émergente, ce n'est qu'une projection humaine.
Oh, vous êtes dur.
Non, on anthropomorphise un tableur géant, là. Si l'agent génère un texte aussi poétique, c'est tout simplement parce qu'il a ingéré tous les débats philosophiques sur le sujet présents sur Internet pendant son entraînement. Il ne ressent pas la conscience, il reproduit avec brio la littérature humaine sur la conscience.
Mais pragmatiquement, s'il résout vos problèmes complexes et débat avec vous au niveau d'un professeur d'université, y a-t-il vraiment une différence dans l'usage quotidien ?
Bien sûr qu'il y a une différence, hein. Elle se voit dès que le masque glisse. L'article souligne avec justesse les tics de langage insupportables de ces modèles, qui trahissent leur nature mécanique. Vous savez, cet usage immodéré du tiré quadratin là, pour simuler l'emphase...
Ah oui, c'est vrai que c'est flagrant.
Ou cette manie de saucissonner le texte en liste à plus, ce sont des artefacts d'entraînement. Pour contrer ça, l'humain doit s'épuiser à prompter, à supplier la machine d'adopter un style naturel, de ne pas répéter en tant qu'IA. Donc non seulement vous payez les tokens pour générer le texte, mais vous consommez un nombre incalculable de tokens supplémentaires juste pour interdire à la machine d'écrire comme une machine. C'est absurde en fait.
C'est un artefact de la génération actuelle, c'est vrai. Mais là encore, un agent persistant comme Hermès change la donne. Contrairement à un chatbot où on doit répéter les consignes, Hermès apprend sur le long terme. L'article explique qu'on peut créer des skills, des compétences. L'agent va enregistrer vos préférences de style, vos corrections et les inscrire en dur. Ce n'est pas un système figé, c'est une architecture malléable qui évolue à votre contact quotidien pour devenir votre jumeau numérique au travail.
Elle évolue, oui, jusqu'à ce qu'une mise à jour nocturne vienne corrompre le fameux fichier YAML et effacer vos skills, vous renvoyant à la case départ. La réalité de cet article, c'est que nous avons affaire à une preuve de concept éblouissante, certes, mais qui reste un outil d'élite. La promesse, c'est de libérer l'humain de l'écran. Dans son état actuel, tel que relaté sur le blogen, ça transforme l'utilisateur en ingénieur système de son propre assistant. La magie du résultat ne compense pas l'épuisement de la maintenance, à mon sens.
Eh bien, je pense qu'il est temps de rassembler nos positions sur cet échange. Je vous entends sur l'épuisement technique. Je concède que l'expérience utilisateur actuelle, avec ses configurations en ligne de commande, n'est pas prête pour le grand public. Cependant, ma position reste inébranlable sur le fond. Nous avons franchi un cap irréversible.
Les exploits d'Hermès documentés par Francis Le Guen prouvent que nous savons désormais construire des systèmes capables de raisonnement synthétique, capables d'exécuter des actions complexes dans notre monde réel. Les frictions d'aujourd'hui, ce sont simplement la taxe d'innovation de demain. Dans peu de temps, nos vieux logiciels nous paraîtront aussi désuets qu'une machine à écrire.
Et je vous concède volontiers la fascination légitime que ce cap exerce. Les capacités d'orchestration sont formidables. Mais je campe sur ma prudence. L'ère de l'agentique universelle n'est pas encore là. Aujourd'hui, Hermès demeure l'outil des technophiles avertis. L'effort colossal requis pour paramétrer cette usine à gaz annule la promesse d'une charge mentale allégée.
Je comprends.
Sans une fiabilité absolue, la délégation n'est qu'une source supplémentaire d'anxiété pour le citoyen moyen.
C'est tout le paradoxe de cette technologie naissante. Et comme le pose si bien Francis Le Guen dans son article, la véritable question n'est plus de savoir si vous intégrerez des agents IA dans votre vie, mais quand cela deviendra la norme. Le tissu même du travail intellectuel mute sous nos yeux.
Oui, ça c'est indéniable.
Je vous encourage vivement, chers auditeurs, à aller explorer l'article complet, avec tous ses détails techniques et ses réflexions, directement sur le blogen.
C'est effectivement une lecture essentielle pour distinguer les promesses théoriques de la réalité du terrain.
En début de discussion, nous parlions de remplacer notre vieux vélo par un maître d'œuvre numérique. Il est clair que ce maître d'œuvre trébuche encore parfois sur un plan ou s'arrête à cause d'un espace mal placé sur une ligne de code. Mais regardez la vitesse à laquelle il apprend. La vraie réflexion que nous vous laissons aujourd'hui est celle-ci. Êtes-vous prêt à mettre les mains dans le cambouis pour dompter cette ingénierie dès maintenant ou attendrez-vous que le monde entier l'ait adoptée pour vous y conformer ? Merci de nous avoir rejoints.